prions dans le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te magnifions pour ce merveilleux privilège que tu nous donnes d'écouter en ce grand jour du souvenir, souvenir de notre libération des péchés et de la mort, souvenir de la réception de notre salut par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ouvre nos oreilles et nos cœurs et permets que ta parole pénètre profondément en nous et nous transforme afin que nous soyons davantage utiles entre tes mains, non seulement pour t'annoncer au monde, mais aussi pour montrer au monde comment vivre selon ta volonté afin d'avoir la vie éternelle. Parle, Seigneur, ton peuple t'écoute, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous commençons par 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 24, les 12 premiers versets. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habit resplendissant. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elle se ressouvint des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elles. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis, il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen.
Yeah. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Voici la merveilleuse nouvelle qui retentit aux oreilles du groupe de femmes pieuses qui avaient cru en Jésus et qui lui avaient tenu compagnie pendant ses dernières heures sur terre, de Galilée jusqu'à Jérusalem. Luc nous apprend que ces femmes, dont il cite quelques noms, à savoir Marie de Magdala ou Marie Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, avaient accompagné Joseph d'Arimathée, membre du Sanhédrin et disciple de Jésus, mais en cachette, qui ne s'était pas associé à ceux qui avaient décidé de mettre Jésus à mort. Il a donc choisi de mettre Jésus dans son propre tombeau, taillé dans le roc. Pour ce faire, poussé par la foi, il est allé trouver Ponce Pilate, le gouverneur, pour lui demander la permission de descendre le corps de Jésus de la croix pour aller le mettre dans sa tombe, une tombe neuve. C'était ainsi le signe de sa foi, du fait que Jésus était son maître. Les femmes qui avaient suivi Jésus ont bien vu comment Joseph d'Arimathée a enroulé le Seigneur Jésus avec un linceul et comment il a placé dans la tombe. Ils ont aussi bien vu l'emplacement de la tombe. Puis, s'en étant retourné le samedi soir, après le repos du sabbat, elles ont acheté des aromates. Elles se proposaient de rentrer au tombeau dimanche matin pour embaumer le corps de Jésus. En effet, l'embaumement représentait à peu près les fleurs que certains utilisent aujourd'hui lors des obsèques de leurs bien-aimés. Ces aromates étaient pour les femmes galiléennes la preuve de leur amour pour le Seigneur Jésus, en même temps que de leur foi et aussi de leur engagement au service de leur maître. C'était aussi leur dernier devoir, le dernier devoir qu'elles n'ont pas eu la possibilité d'accomplir à cause des circonstances tragiques de la mort de Jésus le vendredi. Lorsque les femmes arrivent donc au tombeau, elles constatent que le corps du Seigneur n'est plus là. C'était de très bonne heure dimanche matin. Elles constatent que le corps du Seigneur n'est plus au tombeau. Voulant bien se rassurer que Christ n'y est vraiment pas, elles y entrent et constatent que Jésus n'est vraiment pas dans ce tombeau. Ainsi, les aromates qu'elles ont préparés ne serviront plus pour l'embaumement du Seigneur Jésus. Quand elles voient donc, elles constatent que le tombeau est vide, elles se regardent avec stupéfaction, ne sachant que penser. Oui, sans aucun doute, le Christ était ressuscité. Le Christ était ressuscité. Mais comment l'admettre quand elle ne croyait pas à la résurrection? Deux anges en habits resplendissants leur apparaissent. L'évangéliste Matthieu nous apprend que les soldats tremblèrent de peur et devint comme mort. Luc, quant à lui, nous dit que le groupe des femmes pieuses dont nous avons cité quelques noms fut aussi dans la frayeur. Mais à la différence des soldats, elles entendirent de la part des anges les paroles suivantes. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Cette merveilleuse nouvelle, qui est la plus importante des nouvelles du Nouveau Testament, je la répète à mon tour, à vos oreilles, ce matin, à la suite des anges. Je la répète avec bonheur et une joie sans limite. Oui, Christ, le roi des rois, n'est plus dans le tombeau, mais il est vivant pour toujours. Il est vivant, comme il avait annoncé à ses disciples à trois reprises avant de mourir. Il avait dit, nous montons à Jérusalem et les pécheurs vont me tuer, mais trois jours plus tard, je reviendrai à la vie. Ainsi donc, ni la garde que les chefs religieux avaient réclamée et obtenue de la part de Pilate de placer devant le tombeau pour le garder, ni l'énorme pierre scellée avec de l'argile qui bouchait l'entrée du tombeau, ne l'ont pas retenu dans la mort. Les anges qui annonçaient la résurrection de Jésus n'ont pas roulé la pierre de devant le tombeau pour lui permettre d'en sortir. Mais avant même leur arrivée au tombeau, Dieu avait déjà utilisé la puissance de la mort, de la vie qu'il possède pour ramener son fils à la vie. Les anges ont roulé la pierre pour que les autres témoins puissent y pénétrer afin de constater par eux-mêmes que Jésus n'y est plus. L'histoire de la résurrection de Jésus est racontée par tous les quatre évangélistes, même si chacun d'eux a choisi de mettre l'accent sur des détails différents. C'est d'ailleurs assez simple de le comprendre. Quand des témoins racontent une même histoire, chacun met l'accent sur l'aspect qui l'intéresse le plus, sur ce qui s'est passé. Par exemple, Luc mentionne deux anges, tandis que Matthieu et Marc ne mentionnent qu'un seul. Jean, quant à lui, ne parle même pas d'ange. Jésus est réellement ressuscité. Les femmes galiléennes, désormais convaincues de la véracité de cet événement, vont devenir les premiers témoins de la résurrection et leur première cible pour l'annoncer sont les 11 apôtres et les disciples. Mais pour eux, les femmes rêvaient. Les apôtres n'ont donc pas pris au sérieux les paroles de Jésus concernant sa résurrection. Ils n'ont donc pas cru qu'il pouvait revenir à la vie après sa mort. Ils n'avaient donc pas bien compris l'enseignement de leur maître. Les chefs religieux ont donc pris Jésus plus au sérieux en ce qui concerne l'annonce de sa résurrection 3 jours après sa mort que ses disciples. Quelle contradiction! C'est pour cela qu'ils vont placer une garde devant la tombe, devant le tombeau, pour empêcher au Christ de ressusciter. Cependant, Pierre, l'apôtre, comme il était toujours prompt à agir, va quand même se lever et courir au tombeau afin de voir de ses propres yeux que Christ n'est plus dans ce trou. Le tombeau vide en soi ne suffit donc pas pour faire naître la foi en la résurrection, car on peut se l'expliquer autrement. On peut même fomenter un mensonge autour. Pendant que les femmes, témoins de l'événement, étaient encore en route pour aller le raconter à ses disciples, quelques hommes de la garde, après avoir tremblé, est devenu comme mort au vu des anges, revenus en eux-mêmes, sont allés dans la ville pour annoncer quand même aux chefs religieux, aux chefs des prêtres, ce qui s'est passé. Ces chefs religieux, après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, vont donner une forte somme d'argent aux soldats et leur donner la consigne suivante: taisez-vous, ne dites rien aux autorités. S'ils sont au courant, nous allons les apaiser et vous tirer d'affaire. Une grosse corruption, n'est-ce pas? Mais aussi une grosse honte de la part des dignitaires religieux qui ont cru qu'ils pouvaient empêcher à Christ de ressusciter des morts. La résurrection est un fait historique que personne n'a d'argument valable pour nier. Aujourd'hui encore, la résurrection de Christ agite des esprits. Mais il n'y a que 2 attitudes possibles. Choisir d'être normal et de croire que Jésus est réellement ressuscité, ou bien refuser de voir la vérité en face et nier la résurrection en tentant avec des arguments sans valeur de nier le surnaturel. Jésus est réellement ressuscité comme il l'avait promis. Nous pouvons donc lui faire confiance, car il est à mesure d'accomplir toutes ses autres promesses. La résurrection du Christ est le gage de notre propre résurrection. Elle prouve également que le royaume éternel de Dieu est gouverné par le Christ vivant et que le diable est vaincu pour toujours. Nous pouvons donc, à notre tour, le vaincre aussi avec ses agents. Nous pouvons également vaincre le péché qui gagne davantage le monde et même l'Église. La résurrection de Christ est le message central de l'Église. Elle prouve que la foi chrétienne n'est pas une absurdité, mais elle débouche sur l'espérance d'une vie après la mort. Prêcher un évangile sans le fondement immuable de la résurrection est inconcevable. Dans la théologie de l'apôtre Paul, l'apôtre des gentils que nous sommes, tout tourne autour de la croix. Car c'est parce que Christ est mort et ressuscité que nous sommes pardonnés et sauvés. Chers amis, retenons donc définitivement que la résurrection de notre Seigneur est l'épine dorsale de la foi chrétienne, ou encore sa clé, ou son socle, ou son soubassement. Les mots ne manquent pas pour signifier son importance. Parce que par sa mort et sa résurrection, Christ a vaincu le péché, et puisque la puissance de la vie que Dieu possède et a utilisé pour ramener Christ à la vie, puisque cette puissance-là que Dieu possède et qu'il a utilisé pour ramener son fils à la vie, et là, il peut donner la vie à notre vie mortelle. Il peut donner la vie à notre vie plongée dans le péché, à condition que nous acceptions d'abandonner le péché. Pour cette raison, l'Église doit exercer la discipline afin de bannir le péché en son sein. L'Église doit avoir en son sein de la discipline pour que le péché soit banni parmi nous. Ainsi, nous vivrons ce que nous prêchons. Nous joindrons les actes à la parole. L'apôtre Paul s'étonne du fait que les chrétiens de Corinthe tolèrent le péché dans l'église, au point que l'un d'entre eux couche avec sa mère ou sa belle-mère, c'est-à-dire la femme de son père. L'église doit être différente du monde en exerçant la discipline en son sein. Ainsi, elle pourra maintenir chaque chrétien dans les normes morales qui découlent des commandements divins. Paul exige même que celui qui commet un péché flagrant, comme celui qui a commis ce monsieur qui a couché avec sa maman, qu'il soit exclu de la communauté, même s'il faut l'encourager à revenir à la vie chrétienne authentique. Bien-aimé en Jésus-Christ, lorsque les Israélites se préparaient à quitter l'Égypte, Dieu leur a exigé de préparer le pain sans levain, car le levain symbolisait le péché. Puisque Christ est mort et est ressuscité, nous aussi, nous devons abandonner les penchants du passé et éviter d'être des chrétiens hypocrites. Il y a de cela quelque temps, nous sommes allés visiter quelques veuves qui sont de cette paroisse. Et nous avons constaté qu'elles sont en train de faire le rite de veuvage. je ne crois pas que celles-là soient les seules. Tamja, la capitale spirituelle, a donc encore du chemin. Et chacun doit s'examiner. Christ est ressuscité. Il est vivant, il donne la vie. Mais si l'église devient un fourre-tout, nous n'allons nulle part. Que chacun puisse vivre en tenant compte des commandements de Dieu. Car ce sont ces commandements qui dictent qui fait notre morale. Ce sont ces commandements qui prouvent que nous sommes chrétiens. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen.